Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Alain Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Vous travaillez au laboratoire de géosciences marines, à l'Institut de physique du globe de Paris, où vous êtes donc géophysicien. Vous avez donné une conférence en juin 2008 au Bureau des Longitudes, ici, au sein même de l'Institut, sur le stockage et le piégeage du CO2, qui va être donc le sujet de notre émission Éclairage. Et j'ajoute que depuis 2003, vous dirigez le programme de recherche sur ce fameux stockage du CO2. Vous êtes donc la personne tout à fait appropriée pour répondre à nos questions. Nous allons donc partir d'un principe, c'est que nous ne savons pas ce qu'est le stockage et le piégeage du CO2. Alors Alain Bonneville, pour nous donner quelques chiffres, on estime que d'ici 2050, il y aura une hausse des températures de 3 à 4 degrés, une conséquence de ces émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 fait partie. Il y a également d'autres gaz.
Oui, absolument. Le réchauffement climatique est constaté depuis quelques années et de façon sûre, on a identifié les agents responsables de ce réchauffement climatique comme étant les gaz à effet de serre. Et ça, depuis une trentaine d'années. Pour la première partie du XXe siècle, c'est moins clair et probablement que l'activité solaire joue un rôle important dans l'augmentation constatée de la température moyenne du globe. Mais une chose est certaine, c'est que depuis 1980, l'augmentation de la température moyenne du globe ne peut être expliquée que par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et parmi ces gaz à effet de serre, le principal agent responsable de ce réchauffement est le gaz carbonique, ou CO2. Le gaz carbonique, qui est un gaz qui s'échange entre les différents compartiments terrestres, l'océan, les montagnes, la biomasse, qui est présent dans l'atmosphère à un taux normal, à un taux que l'on connaît depuis plusieurs centaines de milliers d'années, puisque maintenant on a la chance d'avoir des carottes de glace qui nous ont permis de remonter jusqu'à 800 000 ans. Et l'on constate depuis 150 ans, c'est-à-dire grosso modo le début de la révolution industrielle au XIXe siècle, on constate que les activités humaines ont dégagé une quantité de CO2 telle que les différents réservoirs naturels à la surface du globe n'ont pas pu accommoder cette augmentation et que petit à petit, la concentration du CO2 dans l'atmosphère a augmenté à des niveaux qui n'étaient jamais connus depuis 800 000 ans. Ils ont été connus dans le passé de la Terre. Elle a déjà eu affaire à des crises importantes, voire même supérieures à celles qu'on connaît actuellement. Mais la concentration de CO2 dans l'atmosphère en 2005 a atteint un sommet qui était inconnu depuis 800 000 ans, avec 380 parties par million de CO2 dans l'atmosphère.
Donc depuis les années 90, l'idée c'est de capturer ce CO2 et de le mettre sous le tapis en quelque sorte, de le mettre sous terre?
Non, pas exactement, si je puis me permettre. Depuis que l'on a constaté qu'effectivement l'activité humaine pouvait être responsable de ce réchauffement climatique, et que ce réchauffement climatique pouvait mettre en danger, si ce n'est la planète, tout au moins le confort actuel dans lequel on vit, ou le développement de certains pays particulièrement exposés aux effets de ce réchauffement, un certain nombre de nations dans le monde ont décidé de lutter contre ce réchauffement climatique et de lutter contre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et lutter contre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire mettre en œuvre plusieurs solutions. Et parmi ces solutions, on peut citer que le principal responsable des émissions de CO2, c'est la combustion des énergies fossiles, hydrocarbures, charbon. C'est par la combustion pour produire de l'énergie, de cette énergie fossile, que l'on produit du CO2. Donc l'idée, c'est d'essayer de remplacer en partie la consommation de ces énergies fossiles par quelque chose qui régénérerait la même quantité d'énergie, mais qui ne serait pas producteur de CO2. Donc, par exemple, l'énergie nucléaire ne produit pas de CO2. On peut dire, pour diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on peut augmenter la proportion d'énergie nucléaire.
Bon, actuellement, ce n'est pas trop la solution. Là, actuellement, c'est de continuer à produire de l'énergie fossile et de stocker le CO2 sous terre.
Oui, voilà.
Désolée de parler de manière un peu abrupte.
Non, vous avez raison. C'est vrai que actuellement, l'énergie nucléaire, sauf en France, qui est une exception dans le monde, l'énergie nucléaire ne représente qu'une faible partie de l'électricité produite. Moi, je ne parle pas du transport, on y reviendra après, je suppose. Donc il est clair qu'actuellement, c'est la consommation des énergies fossiles qui produit le CO2. Et je ne vois pas comment, ni techniquement, ni pour des raisons de développement naturel d'un certain nombre de pays émergents, on pourrait imaginer que cette consommation diminue dans les 50 années qui viennent.
Surtout avec une population qui augmente.
Hein. Surtout avec une population qui augmente et qui aspire à des niveaux de confort qu'ont connus les pays occidentaux et dits développés depuis un siècle. Donc c'est légitime cette demande et cette croissance-là. Moi, je la considère comme légitime en tout cas. Donc la question est, puisque de toute façon, on ne peut pas se passer, en tout cas à court terme, de consommer ces énergies fossiles, comment les rendre les plus propres, entre guillemets, possible, c'est-à-dire émettant le moins de CO2. Et pour ça, il y a vraiment encore plusieurs pistes, et parmi ces pistes-là, la capture et le stockage du CO2 sur des grosses unités qui produisent du CO2 en est une.
Mais on pourrait, par exemple, aussi parmi les solutions, développer les forêts, par exemple, puisque les arbres captent le CO2, ça serait peut-être une version plus verte.
Absolument. Là, on revient un petit peu à cette idée de départ. Ce qui compte, c'est de diminuer la proportion de CO2 dans l'atmosphère. Et pour ça, il faut s'attaquer à tout ce qui émet du CO2 ou mettre en œuvre tout ce qui peut le séquestrer. Les véhicules automobiles produisent du CO2. Si on améliore le rendement des moteurs, pour les mêmes distances parcourues, on émettra moins de CO2. Voilà une solution. Donc, travailler sur les moteurs. Travailler sur les chaudières domestiques, faire qu'elles, pour les mêmes quantités de chaleur produites, on consomme moins d'hydrocarbures, on produise moins de CO2. Travailler sur l'isolation des maisons, augmenter la surface de la biomasse pour capter le CO2 effectivement qui est présent dans l'atmosphère. Augmenter les énergies renouvelables, éolien, solaire. Augmenter l'appareil hydroélectrique dans les pays où c'est encore possible, parce qu'on arrive aussi à saturation dans un certain nombre de pays quand même. Donc voilà, c'est la mise en œuvre véritable de toutes ces solutions qui peut réellement résoudre le problème. Aucune de ces solutions dont je viens de parler, prise isolément, n'est une solution en soi.
Alain Bonneville, on a bien compris que c'était un ensemble de solutions, mais maintenant revenons au piégeage et stockage du CO2 sous terre. Commençons peut-être par une question toute simple. Qu'est-ce que déjà le piégeage et ensuite le stockage du CO2 sous terre? Quelles sont les techniques utilisées?
Alors, c'est très simple. Il s'agit de capturer le CO2 qui sort de sources d'émissions, de points d'émissions concentrés, de le transporter et de le stocker en profondeur pour des temps qui permettront de passer la période d'effets les plus néfastes du réchauffement climatique. Donc de le laisser dans un réservoir profond, quand je dis profond, c'est au moins 1000 mètres de profondeur, pour des siècles, voire des millénaires. Donc la première chose, c'est d'identifier sur les sources sur lesquelles ça peut s'appliquer, ce dispositif. Alors il y a des gens qui pensent que la capture et le stockage du CO2, c'est je veux faire des gros entonnoirs et puis je veux prendre le CO2 qui est dans l'atmosphère pour le stocker dans le sous-sol. Non, c'est pas ça. Il s'agit de prendre des sources concentrées. Quand on dit sources concentrées, c'est typiquement des sources qui émettent plus de 100 000 tonnes de CO2 par an. Il y en a plusieurs types, des centrales thermiques, des usines sidérurgiques, des raffineries, des cimenteries. On les a identifiées à la surface du globe et elles représentent presque la moitié de la totalité des émissions de CO2. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, autour de 14 gigatonnes de CO2 sont émises par des sources concentrées.
Donc c'est à la sortie de ces cheminées, par exemple, que l'on va prendre ce CO2?
Voilà, c'est une image très simple. Effectivement, vous imaginez une centrale thermique qui est en train de brûler du charbon ou du pétrole. Elle produit de l'électricité, mais elle produit aussi des fumées qui contiennent le plus souvent de la vapeur d'eau, de l'azote, et puis du CO2. Donc l'idée, c'est de mettre un dispositif, une petite usine, si vous voulez, à la sortie de cette cheminée, qu'on supprimera, bien sûr, pour séparer le CO2 du reste. Et ensuite, une fois que le CO2 est séparé, on va le stocker quelque part ailleurs, au lieu de l'émettre dans l'atmosphère.
Alors, quelque part ailleurs, maintenant, où ailleurs? Puisqu'il faut quand même des terrains bien imperméables, j'imagine, des poches bien imperméables.
Absolument. Je suppose qu'on reviendra sur la capture.
Oui.
Donc, l'enjeu principal actuellement, c'est d'identifier ce qu'on va appeler des réservoirs, des lieux de stockage, des pièges, comme vous voulez, des endroits où l'on puisse laisser le CO2 plusieurs siècles, en étant sûr qu'il ne remonte pas vers la surface. Non pas que ce CO2 présente des dangers pour les populations qui y seraient exposées, on y reviendra probablement sur les risques associés au stockage, mais tout simplement parce qu'on ne réaliserait pas l'objectif initial, qui est d'enlever le CO2 de l'atmosphère. S'il y retourne, on a loupé notre but. Donc l'enjeu principal du stockage géologique du CO2, c'est d'identifier des stockages qui soient suffisamment grands pour pouvoir stocker des quantités importantes correspondant par exemple à plusieurs usines, de CO2 et ensuite suffisamment sûr en termes d'étanchéité pour que le CO2 ne ressorte pas tout de suite.
Alors avant de revenir au captage un peu plus en détail, restons un peu sur ce stockage. Est-ce qu'il n'y aurait pas des risques avec ce CO2 sous terre qu'il y ait une dissolution des roches calcaires ?
Ah oui, oui, c'est pas un risque, c'est une réalité, effectivement. Le CO2 est un gaz acide.
Et du fait qu'il y ait des effondrements, voilà.
Comme... Non, pas massif. Il est clair que là aussi, l'enjeu de la bonne identification d'un site de stockage, c'est d'être capable de voir comment le CO2 va se comporter avec les roches avec lesquelles il va être mis en contact. Ça peut être une bonne chose que le CO2 dissolve des carbonates autour de l'endroit où il est injecté, parce que ça va permettre une plus grande injectivité, pour employer un terme technique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plus de CO2 à cet endroit-là avant que ça se bouche, hein, donc il y a des difficultés pour l'injecter. Et puis ensuite, il s'agit de voir ce front de dissolution, si front de dissolution il y a, jusqu'où il va se propager, et s'il ne va pas remettre en cause l'étanchéité du réservoir. Dans un réservoir, on peut très bien avoir de la dissolution. Ce n'est pas forcément critique. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on commence à dissoudre la couverture. Donc, l'identification de bons sites de stockage, c'est aussi ça. C'est d'essayer de voir comment va se comporter la couverture quand elle sera mise en présence de CO2. C'est pour ça qu'il y a encore des études à faire et qu'on n'est pas en train de parler de solutions opérationnelles de stockage, mais qu'on est en train de parler recherche, que l'on est en train de parler de pilotes, qui sont en quelque sorte des maquettes de ce que seront des solutions industrielles de stockage. Parce qu'il y a encore un certain nombre de recherches fondamentales à faire.
Quand vous parlez de stockage, j'imagine que vous faites référence essentiellement aux aquifères. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Ce sont des sources d'eau, mais salines ?
En fait, quand je pensais à stockage, je pensais à tous les types de stockage possibles. Oui. On envisage actuellement de stocker le CO2 dans des réservoirs de gaz ou de pétrole qui ont été exploités.
Donc qui sont épuisés, vides ?
Qui sont épuisés ou tout au moins dont on ne peut pas récupérer facilement les hydrocarbures qui restent ou le gaz qui reste. On connaît très très bien ces réservoirs puisqu'on les a exploités. Ils ont été étanches sur les temps géologiques puisque le gaz ou les hydrocarbures n'ont pas fui. Donc c'est des bons candidats pour le stockage. L'inconvénient majeur de ces sites, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup.
En France ?
En France, mais aussi en Europe, pour D'accord. généraliser. Et de toute façon, les volumes, même d'ailleurs dans le monde, d'ailleurs, les volumes de stockage qu'ils représentent ne peuvent pas être mis en regard des émissions du CO2 industriel. Donc c'est une partie de la solution, là aussi. Non, le principal espoir repose sur les nappes aquifères profondes, salines. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on a des nappes d'eau en profondeur, mais elles ne sont pas potables. Elles ne sont pas exploitées pour l'eau potable et elles ne le seront jamais. Alors l'avantage, c'est que ça représente des volumes énormes. Dans le bassin parisien, il y a des aquifères profonds qui sont connus. Ils sont dans le Deuguer, qui est un étage géologique. Et ces aquifères profonds, on en connaît l'extension, mais on ne les connaît pas précisément parce que justement, on n'a jamais eu à s'y intéresser puisqu'on ne les a pas exploités pour l'eau potable ou pour autre chose.
Donc, quitte à ce qu'elles ne soient pas exploitables, qu'elles ne soient pas utilisables par l'homme, autant qu'elles ne soient jusqu'au bout pas exploitables.
Et alors, le stockage dans les aquifères, c'est un peu différent du stockage dans des réservoirs de gaz exploités. C'est-à-dire que le CO2 va se dissoudre dans l'eau. Et donc là, il ne sera pas sous forme gazeuse. Ça représente déjà une sécurité de stockage plus importante aussi que dans le cadre des réservoirs où il resterait sous forme gazeuse. Parce que quand il est sous forme gazeuse, il est plus mobile, sa viscosité est moindre et donc on augmente, entre guillemets encore, parce que ça, c'est des études précises qui permettront de le définir, on augmente les risques de fuite si c'est plus mobile. Mais si c'est dissous dans l'eau, ça vous fait de l'eau gazeuse en quelque sorte, hein. C'est moins dangereux.
Je vous propose de marquer une première pause à La Bonne Ville. Dans la seconde partie de l'émission, nous reparlerons plus en détail du captage du CO2 et également du coût de ce captage et stockage. A tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Suite de notre émission éclairage, toujours en compagnie d'Alain Bonneville, avec qui nous parlons capture et stockage et piégeage du CO2 sous terre. Dans cette deuxième partie d'émission, Alain Bonneville, revenons quand même quelque temps sur la capture. Il y a plusieurs possibilités pour capter ce CO2. Il y a la post-combustion, l'oxycombustion et la pré-combustion. Alors justement, nous attendons de vous que vous puissiez nous donner des explications simple à ces termes un peu barbares.
Très bien, je vais essayer d'être le plus compréhensif possible. Commençons par le plus simple à comprendre, la post-combustion. La post-combustion s'applique, à la limite, aux centrales existantes. Les centrales thermiques existantes ne disposent pas de capture. Elles émettent dans l'atmosphère des fumées qui contiennent un certain nombre de choses, et principalement du CO2, de l'azote et de la vapeur d'eau. L'idée, c'est de remplacer, comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission, de remplacer la cheminée par une petite usine qui séparera le CO2. On parle de post-combustion parce que la combustion a déjà eu lieu. Elle s'est faite par air sur hydrocarbures ou charbon ou gaz, produit de l'azote et du CO2. Et voilà.
Mais avec des solvants, j'imagine qu'on sépare.
Ensuite, comment se fait la capture? Oui, à l'intérieur. Oui, alors il y a plusieurs dispositifs. Et, le principal dispositif qui est actuellement utilisé, c'est des lits d'amines, c'est-à-dire des réactions chimiques. Les amines vont être dans le dispositif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que vous avez des composés chimiques qui vont fixer le CO2. Ensuite, on récupère ces composés chimiques, on les régénère et on leur fait relarguer en quelque sorte le CO2 qu'ils ont capturé. Et ensuite, on réinjecte les amines dans le dispositif de post-combustion.
Ils
sont réexploitables. Alors, il y a une perte un petit peu à chaque fois, mais ils sont réexploitables.
Donc, on ne repollue pas pour dépolluer, vous voyez ce que je veux dire.
Absolument. C'est en circuit fermé que se fait cette opération-là. Et on reviendra à un coût, bien évidemment, mais c'est en circuit fermé que ça se fait. Et le CO2, une fois qu'il est relargué par les amines, il est ensuite mis dans un état, j'entends pression et température, qui lui permettent d'être transporté jusqu'à son lieu de stockage.
Il refroidit, j'imagine, non ?
Voilà, alors c'est ce qu'on... En fait, le plus souvent, il sera mis dans un état que l'on dit supercritique. C'est un point où il a à la fois les propriétés d'un liquide et les propriétés d'un gaz. Les propriétés d'un gaz sont intéressantes parce qu'il a une faible viscosité, donc il est facilement mobilisable et transportable. Les propriétés d'un liquide, c'est intéressant parce qu'il a une densité plus forte, donc on en stocke davantage. Pour atteindre ces propriétés de supercriticité, il faut atteindre une pression de 70 bars et de 31 degrés centigrade.
De moins 31 ou de 31 ?
31 degrés.
De 31 degrés centigrade.
Donc il faut, pour atteindre les 70 bars, 70 bars c'est une pression qui est 70 fois la pression atmosphérique, il faut donc comprimer le CO2 et le réchauffer en même temps. C'est-à-dire que c'est une opération qui consomme elle aussi de l'énergie et qui produit du CO2. Donc on y reviendra
tout
ça. Donc
quel est
le
gain, oui, au final ?
Il faut qu'à la fin, effectivement, l'opération... elles se traduisent par un gain, bien sûr. Il ne faut pas qu'on ait généré plus de CO2 qu'on en capture. Donc on verra qu'on ne capture pas tout le CO2 que la centrale thermique initialement produisait, puisque toutes les opérations qui se sont succédées ont généré plus de CO2 que la centrale n'en produisait avant le dispositif de capture. Donc plutôt que de CO2 capturé, on parle de CO2 évité. Donc c'est une terminologie qui tente maintenant à se démocratiser pour cette filière-là. Les opérations dont je viens de vous parler, la post-combustion, la régénération des amines, la compression, tout ça a un coût sur un plan énergétique. C'est-à-dire qu'on diminue globalement le rendement de la centrale. Et dans certains cas, ça peut diminuer de façon très importante. C'est-à-dire, et ça c'est l'autre effet pervers du dispositif, que pour produire la même quantité d'électricité, il faudra consommer plus d'énergie fossile.
Donc finalement, le résultat est quasi nul.
Non, pas quasi nul. Simplement, il faut vraiment avoir présent à l'esprit que si je prends une centrale thermique qui existe, que je veux la rendre propre, ça va avoir un coût énergétique et un coût en émissions de CO2 qui n'est pas négligeable.
Donc ça veut dire que pour produire de l'électricité à partir du charbon, il faut deux fois plus de charbon?
Non, pas deux fois plus. On va diminuer dans le pire des cas, quand on aura affaire à des centrales thermiques de faible rendement et avec des dispositifs de post-combustion peu sophistiqués, on peut réduire le rendement de la centrale de 30%. Ce qui est considérable. Hein. Mais ce qui signifie donc, et ça aussi, le citoyen qui est un consommateur d'électricité doit avoir présent ça à l'esprit, ça signifie bien sûr un renchérissement in fine de la facture d'électricité. Hein, bon, peut-être pas en France, pour les raisons que l'on connaît, donc de production principalement d'électricité à partir du nucléaire. Mais dans la plupart des pays qui vont mettre en place massivement ce dispositif de capture et stockage, ça va, il faut que le citoyen consommateur ait ça aussi présent à l'esprit. C'est que la lutte contre le réchauffement climatique va avoir un coût, d'une façon générale.
Là, c'est pour la post-combustion.
C'est pour la post-combustion.
Il y a l'oxycombustion et la pré-combustion. Alors, l'oxycombustion déjà.
Alors, l'oxycombustion, c'est de dire, plutôt que de faire réagir de l'air sur le combustible, ne faisons réagir sur le combustible que la partie utile de l'air, c'est-à-dire l'oxygène. Donc, on sépare l'oxygène de l'air avant de mettre dans la chaudière. Et ensuite, on fait circuler dans la chaudière de l'oxygène pur qui va réagir sur le combustible. En sortie de cette combustion, il n'y a que du CO2.
Que l'on peut ensuite...
On n'a plus à le séparer. Alors, en fait, je dis que du CO2, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on fait brûler de l'oxygène en excès. Donc, il y a un peu aussi d'oxygène, mais ça, ce n'est pas critique. On peut injecter l'oxygène et le CO2 en même temps. Donc, il ne reste plus, une fois qu'on a fait produire ce CO2, il ne reste plus qu'à, comme dans l'étape précédente, à le comprimer et le réchauffer pour le mettre dans les conditions supercritiques et le transporter.
Mais cette méthode semble beaucoup plus simple que celle que vous venez de nous expliquer sur la
beaucoup
post-combustion.
Beaucoup plus simple, beaucoup plus prometteuse. Et aussi sur le plan du rendement, il y a une diminution du rendement de la centrale, mais de l'ordre de 10%.
Ah, donc plus intéressante.
Beaucoup plus intéressante à mettre en œuvre. Donc on est vraiment dans une logique là, où on commence à réfléchir à un dispositif de capture qui est adapté à la filière. La post-combustion, c'est que, grosso modo, on fait du bricolage. On prend quelque chose qui existe et on le met au goût du jour, on le rend propre. Et c'est pas très efficace. Alors que là, on est en commençant avec l'oxycombustion, on rentre dans une logique qui est de dire je construis une centrale en ayant en tête, dès les plans initiaux, le procédé qui sera le plus efficace possible pour la capture du CO2.
Et le dernier, la précombustion?
Alors, la précombustion, c'est encore autre chose. La précombustion, c'est je sépare l'hydrogène du combustible. C'est-à-dire, là, on rentre dans une logique, presque la filière hydrogène. Hein, et je fais réagir l'hydrogène avec l'air. Et donc, je produis l'électricité. La combustion se fait directement sur H2, sur l'oxygène. Et la séparation de l'hydrogène à partir du combustible, c'est là où il va y avoir du CO2 produit.
Donc finalement, ces deux dernières méthodes, oxycombustion et précombustion, semblent plus intéressantes.
Voilà. Sur un plan industriel, il semblerait que les industriels s'orientent plutôt vers l'oxycombustion actuellement. Alors, pour des raisons peut-être... Tout simplement de maturité du procédé oxycombustion par rapport à l'autre.
Vous parliez du CO2 évité plutôt que capté ou capturé. Ma question va être très simple. Est-ce que le CO2 qui est actuellement dans l'atmosphère, est-ce qu'il est trop tard pour le capturer celui-ci, celui qui est déjà dans l'atmosphère?
Oui, la seule façon de capturer celui qui est dans l'atmosphère, c'est d'augmenter la surface de la biomasse.
Oui,
des forêts.
Donc les forêts.
Voilà.
Ah ouais.
Ça, c'est la seule solution possible.
Donc cette image un peu que l'on pourrait avoir comme dans une bande dessinée où on aurait, je ne sais pas moi, un tuyau qui capterait comme ça, qui aspirerait le CO2 est totalement fausse.
Totalement fausse. Enfin, non, pas tout à fait fausse sur le principe. C'est possible, mais c'est très très peu efficace.
Sur le transport de ce CO2, il peut se faire par bateau, ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris, et puis également par pipeline. Mais par bateau, en préparant cette émission, nous avons bien sûr discuté un peu, vous m'aviez expliqué qu'il y avait beaucoup de pertes par bateau. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui, juste le moyen le plus sûr et le plus fiable et que l'on maîtrise depuis des dizaines d'années, c'est le transport par gazoduc.
Oui.
Ça, c'est certain. Il n'y a aucune technologie majeure, il n'y a pas de rupture à attendre.
Mais ça peut être coûteux.
On le connaît.
Mais ça peut être coûteux, c'est-à-dire que s'il y a des terrains accidentés ou même si c'est maritime.
Certes, mais bon, on a des tas de réseaux de gazoducs en France, hein, et en Europe du Nord. Bien sûr, on est capable d'estimer le coût, mais on y reviendra après, mais dans l'ensemble de la filière, si on capture transport et stockage, c'est pas le transport qui est le plus cher.
D'accord.
Alors maintenant, le transport par bateau. Le transport par bateau, c'est vrai, c'est un petit pose un problème.
C'est une pratique commune ou c'est
assez rare? Non, c'est tout à fait marginal.
D'accord.
C'est le transport du CO2 par bateau.
Oui.
Enfin, on le transporte pour des raisons alimentaires, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour les usages alimentaires, le CO2 après. Fabrication de boissons gazeuses, on va dire. De boissons gazeuses, donc pour tous les usages alimentaires du CO2, il peut être nécessaire de le transporter dans des conditions qui soient... pas de gazoduc, c'est pas des quantités monstrueuses. Donc là, le bateau a pu avoir son utilité et a encore son utilité. Mais le transport par bateau, il y a des fuites. Elles sont bien connues, on est capable... Alors, je ne vous donnerai pas de chiffres, je vous en ai donné un tout à l'heure, mais ce pourcentage de fuite est important et il est proportionnel à la distance parcourue. Puisqu'il est proportionnel au temps que met le bateau à parcourir cette distance. Et dans certains cas, c'est non négligeable.
Vous voulez dire que le bateau arrive vide à
la
fin ?
Non, il n'arrive pas vide, mais il peut avoir perdu quelques pourcents de sa cargaison s'il fait un trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Mais à ce moment-là, ça serait absurde de transporter du CO2 sur plusieurs milliers de kilomètres, alors que le coût du transport par bateau d'une quantité relativement faible de CO2, finalement, aurait émis beaucoup plus de CO2 encore. Donc je crois que là, je pense que le transport par bateau n'est pas une solution à mettre dans le cadre de capture et stockage du CO2. Non. Vraiment, les solutions auxquelles on pense, c'est capture, réseau de gazoduc, en domaine continental ou en domaine marin un peu profond, pour acheminer le CO2 jusqu'à des sites de stockage.
Alors, le coût, vous en parliez à l'instant, puis on y revient assez souvent. Quel est l'intérêt de ces entreprises? Alors, bien sûr, on pense aux entreprises pétrolières, mais également aux aciéries ou aussi aux productions de ciment. Quel est leur intérêt de stocker le CO2 si ça leur coûte si cher?
L'intérêt, ça peut être d'échapper à une taxe.
La taxe carbone, par exemple.
La taxe carbone que mettrait en place le gouvernement ou les gouvernements. Ou comme l'a fait de façon pionnière le gouvernement de Norvège en 1991. Et dès la mise en place de cette taxe, Statoil, on y reviendra un peu plus tard, a créé justement un site de stockage qui est devenu un site de stockage pilote et un peu emblématique, en tout cas historique, du CO2, parce que ça lui coûtait moins cher de stocker le CO2 plutôt que de payer la taxe. Donc il est clair que cette solution-là, ne verra le jour qu'à partir du moment où il y aura des moyens incitatifs ou d'aide, si ce n'est incitatif coercitif, des moyens d'aide en direction des entreprises pour qu'elles stockent le CO2. Parce que ça leur coûte de l'argent. Et bon, je veux dire, c'est pas tout à fait là.
Donc c'est en fait à l'État de mettre des pénalités pour que les industries fassent un peu plus attention et trouvent des solutions.
C'est ça, l'État ou l'Union européenne ou toute autre instance qui permettrait effectivement de mettre en place un dispositif de régulation de ces émissions de CO2, taxant ceux qui en émettent beaucoup, récompensant ceux qui en stockent et évitent le rejet de CO2 dans l'atmosphère.
Et ce stockage de CO2, pour revenir là-dessus, ça va être l'État ou peut-être déjà que ça va être le cas, par exemple, pour Total, on en parlait dans la première partie de l'émission, c'est l'État qui va distribuer ces zones aquifères, par exemple. Qui est propriétaire de ces aquifères, par exemple?
En France, la réponse est très claire, c'est l'État qui est propriétaire du sous-sol.
Donc en fait, c'est l'État qui va louer, comment ça va se passer en fait?
Ça, je ne peux pas vous répondre actuellement, parce qu'on est véritablement dans une logique de construction de toute cette réglementation. Hein. Donc, on est dans l'expérimentation. Actuellement, la seule injection de CO2 qui va se faire en France va se faire sur un site qui était déjà exploité par Total et pour lequel l'État avait donné une concession à Total d'exploitation.
Donc, ça ne regarde que Total. En fait,
il va pas l'utiliser au même usage qu'il avait obtenu. Donc, il y a une enquête d'utilité publique quand même. Il y a toute une procédure qui est mise en place. Mais pour l'instant, l'État, et en tout cas les services de l'État qui s'occupent de ça, n'ont pas une réglementation qui est complètement arrêtée sur le sujet. D'abord, parce que ça se réfléchit aussi à l'échelle de Bruxelles. Il y a une directive européenne qui est en réflexion actuellement, qui permettrait de réglementer tous ces aspects. Mais peut-être on pourrait revenir au coût, si vous voulez.
Oui, juste bien sûr.
Ce que je voulais dire actuellement, c'est très difficile d'évaluer ce que coûtera quand on en sera à une échelle industrielle, cette filière-là. Mais actuellement, on est en train de dire que, grosso modo, la tonne de CO2 évitée coûterait autour de 50 euros.
50 euros la tonne.
C'est à peu près ça. Avec là-dedans la plus forte proportion pour la capture. C'est-à-dire que la capture, pour l'instant, on est à 25-30 euros la tonne.
Oui.
Le transport, c'est pas grand-chose, 5 euros. Et puis, le stockage, eh bien, ça serait les 15 euros restants, voire moins si on stocke de plus grandes quantités. Parce que c'est un petit peu, là, il y a un prix à la grande quantité. Plus on en stocke, comme toutes les études auront été faites avant, l'injection, tout ça, ça ne va pas coûter beaucoup plus cher après. Donc pour le stockage, et plus on en stockera, moins ça coûtera cher à la tonne. Mais par contre, la capture, elle risque d'être un prix fixe et la partie la plus importante. D'où l'intérêt de faire vraiment beaucoup de développement et de recherche et développement sur cette partie-là de la filière.
Sur la partie du
capture. Capture, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Hein? Donc on peut imaginer après des économies d'échelle, mais pour l'instant c'est ce qui coûte le plus cher. Et vraiment des grandes entreprises comme Alstom travaillent beaucoup sur les différents procédés pour les améliorer, être capable de proposer à terme des centrales thermiques propres et avec un rendement qui est quand même correct.
Oui. Centrale thermique propre, en sachant que ce CO2, il se retrouve quand même sous terre. Donc la notion de propreté.
Oui, mais propre par rapport à l'objectif qu'on se fixe. D'accord. Vous avez raison, c'est toujours relatif. Mais là, c'est propre par rapport à l'objectif qu'on se fixe, qui est de diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est le critère de propreté que l'on retient.
Je vous propose de marquer une seconde pause, Alain Bonneville. Dans la troisième partie, nous parlerons peut-être justement de ces sociétés qui s'intéressent justement à toute la partie technologique du stockage, capture du CO2. Et puis nous parlerons bien sûr d'exemples qui existent en Europe et également aux États-Unis, au Canada, en Algérie. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie d'Alain Bonneville. Dans cette troisième partie d'émission Alain Bonneville, revenons sur le marché potentiel ou déjà actuel du stockage, du transport de ce CO2. Est-ce que c'est un marché réel déjà aujourd'hui? Est-ce qu'il va encore prendre de l'ampleur?
C'est un marché émergent, véritablement. Oui. Et on a vu en France se créer deux sociétés en 2007 qui sont dévolues à l'étude du stockage géologique du CO2. Pas forcément la capture, mais en tout cas le stockage géologique du CO2. Ces deux sociétés, c'est une filiale de l'IFP et du BRGM, oui, associée avec Geostock, qui s'appelle GeoGreen, qui a été créée l'an dernier. Et qui a déjà des contrats, dans le Golfe Persique notamment, de pré-études, de choix de sites, d'identification. Donc on est vraiment dans une logique où on commence, effectivement. La deuxième société qui s'est créée en France, c'est la société, mais c'est une société internationale, c'est Schlumberger Carbon Services, qui bien sûr s'appuie sur le groupe Schlumberger, mais qui est entièrement dédiée, là aussi, au stockage géologique du CO2. Études de sites, mais surtout mise en œuvre de projets d'injection et de surveillance. Donc voilà, une filiale et une importante société dans le domaine parapétrolier qui se positionne sur le marché, qui est appelé, au dire de certains, à être un marché extrêmement porteur jusque dans les années 2020, puisque l'on parle de plus de 2000 sites de stockage à cet horizon en temps.
Sur le stockage, la France était pionnière dans ce domaine de recherche?
Non,
pas spécialement.
Pas spécialement pionnière. Elle est très bien positionnée en termes de recherche et développement. Elle est moins bien positionnée en termes de sites, puisque d'autres nations sur leur territoire ont eu des sites pilotes qui se sont développés. Elle rattrape son retard actuellement, mais elle est très bien positionnée sur le plan de la recherche, oui. Notamment, elle participe à de très nombreux projets européens.
Alors justement, vous parlez de projets européens et vous aviez parlé également du Golfe Persique. Regardons un peu ce qui se passe autour de nous et notamment en Norvège. C'est le premier site qui a vu le jour en 1996, qui est le site de Sleipner, je ne sais pas si je prononce bien.
Sleipner, c'est
Sleipner.
Ça, tout à fait.
Un projet qui vous est cher, vous me disiez au cours de cette pause. Pourquoi?
Oh, il m'est cher parce qu'effectivement, c'est le projet emblématique,
oui.
Historique, qui, à partir duquel de nombreuses... c'est celui qu'on enseigne maintenant, puisqu'on a aussi... Qui dit secteur émergent, dit aussi secteur émergent en enseignement, parce qu'il faudra fournir des cadres à cette filière. Donc là, j'ouvre cette parenthèse. En tant que professeur d'université, je suis particulièrement sensibilisé à ça. Et nous essayons de construire un master européen sur cette problématique. Mais je referme la parenthèse, parce que c'est pas le sujet de cette interview. Donc, c'est emblématique, c'est le premier qui a démarré. Ils ont mis des moyens importants pour la surveillance géophysique. Et c'est le seul sur lequel on est ce recul-là. On a plus maintenant de 12 ans d'injection.
Donc c'est une zone de gaz naturel, c'est ça?
Alors voilà, en fait, à cet endroit-là, la compagnie norvégienne Statoil exploite un champ de gaz. Alors je ne sais plus depuis quand, peut-être disons les années 70 ou les années 80. Et ce gaz-là, ce gisement était très riche en CO2. Donc, à un point tel que le pourcentage de CO2 contenu dans le gaz empêchait que le gaz puisse emprunter le réseau de gazoduc norvégien. Il n'était pas conforme, en tout cas, mais on ne pouvait pas le commercialiser. Donc, ils ont mis en place, dans les années 80, une usine de séparation du CO2 à partir du méthane.
Cette difficulté les a poussés
à
produire une énergie plus propre. Ouais. Donc,
non, pas plus propre pour l'instant. Parce que leur CO2... Ils se contentaient de le séparer du méthane. Ensuite, le méthane, rendu propre à la consommation, en tout cas au transport, était envoyé par gazoduc à terre. Et le CO2, ils le rejetaient dans l'atmosphère.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Donc, ils avaient fait une usine de séparation, mais c'était rejeté comme ça. Et le gouvernement norvégien, en 1991, si mes souvenirs sont bons, a instauré une taxe sur les émissions de CO2, une taxe qui était extrêmement élevée, de l'ordre de 100 euros la tonne. Et là, la compagnie Statoil a dit, bon, ben peut-être on pourrait imaginer une solution plutôt, parce qu'on ne va pas payer ça, puisqu'on a déjà séparé notre CO2 du gaz. Essayons de voir si nous ne pouvons pas l'injecter en profondeur et ainsi éviter de payer la taxe, même si ça nous coûte de l'argent, ça nous coûtera moins cher que de payer cette taxe. Bon, je simplifie, bien évidemment. C'était aussi une occasion donnée de tester une technologie, un procédé. D'ailleurs, Statoil s'est associé dès l'origine à l'Europe, à l'Union européenne, a essayé d'ouvrir un maximum cette opération pour en faire une opération pilote et un peu emblématique, ouverte à d'autres secteurs de recherche et développement, à des organismes publics de recherche et développement. Et ils ont injecté dans une nappe aquifère saline profonde, à 800 mètres de profondeur, le CO2. Donc au-dessus, je pense que le réservoir, on ne sait pas exactement la profondeur à laquelle il est, mais admettons qu'il soit à 2000 mètres de profondeur, on retire le méthane. On sépare le CO2 du méthane en surface, et ensuite on comprime on comprime le CO2, on le met dans les conditions supercritiques et on le réinjecte à 800 mètres de profondeur dans un réservoir, dans un grès, c'est-à-dire un sable consolidé très poreux, très perméable, qui est recouvert d'une couverture argileuse imperméable, donc un piège naturel tout à fait étanche.
Mm-hmm.
Et ils ont fait un niveau de base, c'est-à-dire ils ont fait des études géophysiques avant l'injection. On a développé en quelque sorte des outils qui permettent d'avoir une image en trois dimensions du réservoir dans lequel ils allaient stocker le CO2. Ils l'ont fait avant. Ils ont commencé l'injection de 1 million de tonnes par an en 1996. Et ensuite, ils ont répété cette surveillance du réservoir au cours du temps. Si mes souvenirs sont bons, ils ont réitéré en 1999 et en 2004, de façon à voir comment avait évolué au cours du temps.
Oui, parce qu'on n'a pas de recul, en fait,
voilà.
Pour le moment.
Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a vu la bulle de CO2 se propager, qui a une signature très particulière en sismique, permettant de l'identifier vraiment dans ce réservoir. On a vu la bulle de CO2 progresser, remonter dans le réservoir, s'étaler. Donc, on a eu un suivi du comportement de cette bulle de CO2 au cours du temps. Et c'est pour ça que c'est un site de stockage qui est important.
Est-ce que l'on peut arriver à une saturation de ces réservoirs ?
Non, alors en l'occurrence, cette formation-là, qui s'appelle les grès d'Utsira, pourrait stocker plus de 2 siècles de toutes les émissions de CO2 de l'Europe. Donc on est dans des réservoirs qui sont considérables en termes d'extension spatiale et véritablement, non, on est très loin de la saturation. Alors, chose intéressante, c'est que par contre, lors d'un des réitérations de cette surveillance, on a mis en évidence qu'une partie du CO2 était passée à travers la couverture imperméable. Ça ne signifie pas qu'il a détruit la couverture.
Il y a des
fuites,
qu'en fait,
elle était discontinue, cette couverture.
D'accord.
Et donc, en fait, c'est pas remonté plus haut. Il y a 800 mètres de couverture. Le CO2 a progressé de quelques mètres. Il a contourné. Il a trouvé des voies favorables. Mais ça a été très intéressant parce qu'au départ, on s'est dit, oh, les premières images, les gens ont dit, oh, regardez, ça marche pas. Le CO2 est en train de fuir. Et puis en 2004, on a vu que ça se stabilisait à cette profondeur-là et ça ne remontait pas plus haut.
Mais j'imagine que pour des zones sismiques, pour le coup, ça doit être beaucoup plus difficile de stocker du CO2.
Oui, bah, faudra peut-être éviter de stocker dans ces zones-là.
Oui, je pense à l'Inde, par exemple, où voilà, des territoires.
Il y a des territoires, toute l'Inde n'est pas sismique quand même.
Oui.
Donc, évidemment, il faudra stocker dans des endroits où, quand je soulignais tout à l'heure l'importance de la reconnaissance géologique des sites de stockage et l'importance des disciplines comme les nôtres, celle des géosciences. Géologie, on imaginait que c'était un peu des métiers du passé, mais non, la géologie, la géophysique ont encore tout leur mot à dire pour bien reconnaître ces sites-là et les identifier comme sûrs.
Un autre site à Potsdam, c'est ça ?
Oui. Alors Potsdam, c'est très intéressant parce que le site dont je vous ai parlé à Sleipner, c'est un site qui est contrôlé par la compagnie Statoil.
Oui.
C'est très bien, ils ont fait tous les investissements, mais ça reste un site où la permission de faire des opérations de recherche n'est pas forcément donnée systématiquement. Potsdam, dans la banlieue de Berlin, c'est Ketzin plus exactement, c'est le petit village à proximité de Potsdam où va être mise en œuvre cette injection de CO2. C'est le premier site académique, expérimental, pilote, financé par l'Union européenne, dans le cadre d'un projet qui s'appelle CO2Sink, qui veut dire en français « puits de CO2 ». Et ce projet est piloté par nos collègues du GEFZ, c'est un institut de recherche de Potsdam. Donc c'est véritablement, pour la première fois, un projet auquel le monde académique, les organismes de recherche, le grand public a véritablement un accès complet, complètement transparent, je dirais. Ce qui ne signifie pas que les compagnies ne sont pas transparentes. Mais là, c'est vraiment un projet qui a été fait sur argent public, dont les missions principales et le cahier des charges initial étaient véritablement de tester le stockage dans un contexte géologique particulier, et de tester et de communiquer autour de ce stockage. Donc il y a eu énormément d'opérations de communication, d'informations dans les écoles, dans les politiques du Land correspondant se sont mobilisées, les politiques aussi de la République fédérale, à un niveau fédéral aussi, se sont extrêmement mobilisées autour de ce projet. Parce que il y a beaucoup d'enjeux autour de ça en Allemagne, qui produit une partie non négligeable de son électricité à partir du charbon.
Hein, oui, oui.
Mais justement, dégageur de CO2.
Et justement, donc, ce projet prend appui à partir d'une centrale à charbon, j'imagine ?
Non, alors là, c'est un projet. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est vraiment
D'accord.
dans un projet de recherche, c'est-à-dire qu'on va faire venir des petites quantités de CO2 par camion. Hein ? On va injecter ça n'a rien à voir avec l'échelle industrielle, le
D'accord.
million de tonnes, tout ça. On pense à injecter, je crois, si mes souvenirs sont bons, quelques milliers de tonnes sur une période courte. L'idée, c'est de tester des méthodes, d'abord de tester si les modélisations du comportement du CO2 en sous-sol sont validées par l'injection réelle. Ensuite, de voir si les dispositifs relativement novateurs de surveillance du site et du réservoir que l'on a mis en place jouent bien leur rôle dans le suivi de la bulle de CO2, dans le suivi de son extension spatiale. Donc c'est un site de recherche.
Avant de parler de la France, donc on a évoqué comme ça quelques exemples. On n'a pas parlé de la Chine, qui est quand même un des plus gros pays qui émet des émissions de gaz à effet de serre, enfin, voilà, qui produit des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce ou à cause, je ne sais pas, de ces centrales à charbon. Est-ce qu'ils ont des projets aussi de leur côté ?
C'est
de
vrai
stockage
que...
Pardon.
C'est vrai que nous n'avons pas parlé de la Chine, on n'a pas parlé d'une façon générale du paysage mondial.
Oui.
et des, quels sont les plus gros émetteurs. Jusque l'an dernier, le plus gros émetteur de CO2 était les États-Unis d'Amérique, et ils ont été devancés par la Chine. Et la plus forte croissance des émissions de CO2 liées à la combustion de charbon, c'est bien sûr la Chine.
Alors, il semble qu'ils aient passé un accord avec l'Europe, non, c'est ça?
Non, il y a des protocoles, il y a des négociations en cours, mais à ma connaissance, peut-être, je ne suis pas au courant, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de contrat signé, quoi que ce soit. Actuellement, la Chine construit, ou construisait il y a peu, une centrale thermique de 1000 MW par semaine. Une centrale au charbon par semaine. Donc on est à des chiffres qui, si ce taux de croissance était maintenu pendant les années qui viennent, ferait qu'à l'horizon 2015, la Chine rejetterait autant de CO2 dans l'atmosphère que l'ensemble du reste du monde. Donc on est dans l'urgence absolue pour ce qui est de la mise en place de dispositifs permettant à la Chine, tout en légitimement assurer son développement, il faut lui permettre d'assurer son développement, mais disons, il faut l'aider à mettre en place des dispositifs qui rendent ce développement plus compatible avec des objectifs de contrainte du réchauffement climatique au niveau mondial.
Parce qu'il semble paradoxal que chacun, à son niveau, à petite échelle, essaie de stocker ce CO2 d'une manière ou d'une autre, avec des raisons louables ou moins louables. Mais bon, le résultat, il est là, c'est qu'on essaie de stocker du CO2. Et à côté de ça, des pays qui produisent, et n'ont pas forcément cette notion de stocker du CO2 sous terre pour le moment, ou ailleurs.
Disons, on peut toujours avoir une vision pessimiste ou optimiste de la chose. La vision quand même que je considère comme optimiste, c'est que maintenant on a plus de la moitié des émetteurs de CO2 qui ont signé et ratifié le protocole de Kyoto, y compris la Russie. Donc on est maintenant à la mise en œuvre effective du protocole de Kyoto, puisqu'il fallait que plus de la moitié des...
Et chacun s'est arrangé avec le protocole.
Alors, bien sûr, il y a d'autres pays qui refusent de le signer, mais ça ne les empêche pas de faire de la recherche sur le sujet. Les États-Unis sont très en pointe sur la capture et le stockage du CO2. Et probablement qu'ils s'y mettront. Je ne pense pas qu'ils soient complètement à la traîne là-dessus. Donc il reste maintenant le cas, et ça c'est le cas le plus préoccupant pour nous, pays développés, c'est véritablement le cas des pays connaissant une croissance forte comme la Chine et l'Inde.
Revenons pour terminer notre émission sur le territoire français. Il y a donc plusieurs bassins possibles où l'on pourrait stocker du CO2, le bassin parisien, le bassin aquitain, également le sud-est de la France, finalement un peu partout en France.
Tout à fait. Seulement, ce qu'il faut regarder, c'est l'association avec des sources de CO2 en nombre et en volume suffisamment important pour que c'est un sens de stocker dans ces endroits-là. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si on peut stocker un peu partout en France, seuls quelques bassins restent après qu'on ait vraiment identifié les grosses zones productrices de CO2.
Pour revenir à un projet qui devrait voir le jour en 2009 et qui inclut l'entreprise Total, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ça concerne quel territoire de la France, quelle partie de la France?
Bien sûr, alors je peux en dire quelques mots, bien sûr je ne parle pas au nom de Total.
Oui, bien sûr. Ah, nous ne sommes pas là pour faire du lobby donner une vision rose du stockage du CO2, on est là pour donner des informations.
Absolument, donc je vous fais part de la connaissance que j'ai de ce projet, qui pour l'instant est le seul projet effectivement pilote sur cette filière en France, et c'est aussi probablement à l'échelle mondiale le seul projet qui intègre la capture, le transport et le stockage, qui sont une sorte de tout en un, si vous le voulez. Il va se situer à Lacq, dans le sud-ouest de la France, Lacq où on exploite, où la compagnie Elf puis Total exploite du gisement de gaz naturel, et un de ces gisements peut être utilisé pour stocker du CO2. Donc Total a décidé, je pense que c'était il y a peut-être deux ans et demi, de mettre sur pied un projet dans lequel il développerait à la fois un procédé d'oxycombustion sur une petite centrale thermique qui est présente à Lacq, une centrale de 30 à 35 mégawatts, et ensuite il mettrait en œuvre toutes les étapes de cette filière-là, leur permettant de tester à l'échelle peut-être un dixième, si vous voulez, mais quand même relativement important, de tester toutes les étapes de cette filière-là. Donc le transport jusqu'au site de stockage, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres de la centrale, et injection dans un réservoir profond, puisqu'il est à 4500 mètres de profondeur, de ce CO2 qui aura été capturé sur la centrale thermique de Lacq.
4500 mètres de profondeur, je suppose qu'on arrive à des températures, pour le coup, qui deviennent un peu plus élevées avec le CO2. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème.
Non, aucun problème. Là, on reste dans les conditions supercritiques. Aucun problème, absolument. Donc, ce projet est plus qu'avancé, puisque je crois actuellement la partie capture est achevée. Ils en sont total, on est à la phase de concertation. Et notamment, il y a eu, l'année dernière, effectivement, une grosse opération de concertation avec les populations sur place. Il y a une enquête publique en cours maintenant, un procédé d'enquête publique. Et normalement, si tout se passe bien, si toutes les autorisations sont données, si le projet est accepté localement, l'injection devrait commencer en 2009.
En 2009. Pour terminer cette émission, quel est l'avis du public ? Vous êtes géophysicien, vous faites beaucoup de conférences. Les personnes, lorsqu'elles prennent connaissance de capture, stockage du CO2, ils ont un regard, une écoute inquiète, ils ont un regard inquiet, ou au contraire, chacun pense que c'est une solution révolutionnaire pour ces émissions de gaz à effet de serre et ce réchauffement climatique qui nous pend au nez et que l'on constate déjà actuellement ?
Les gens sont très concernés par le réchauffement climatique, ça c'est évident. Ils n'en maîtrisent pas toujours les causes, pour des raisons X ou Y, mais les gens sont très concernés par ça. Donc quand on présente, quand j'ai eu l'occasion moi de présenter cette filière-là, elle a été bien acceptée, elle est bien reçue. Elle est bien reçue quand on l'intègre, comme j'ai pu le faire, c'est peut-être une façon de boucler hein, cette émission, quand on l'intègre comme une solution parmi d'autres et non pas comme la solution miracle. À partir du moment où on a un langage de vérité et de responsabilité avec le grand public, alors à ce moment-là, on peut faire passer plus de choses. Et la chose où les gens réagissent le plus vivement en fait, au départ, c'est de dire « mais finalement, ça ne remet pas en cause nos modes de consommation des énergies fossiles, et est-ce que vous ne croyez pas que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler ?» Oui, bien sûr qu'il faut travailler là-dessus, mais il y a urgence, et c'est dans les 30 ans qui viennent, on ne va pas pouvoir se passer. Pour la production d'énergie, on ne va pas pouvoir se passer de combustibles fossiles. Et donc, dans ces conditions-là, la discussion repart. Et quand on leur dit, accepteriez-vous chez vous, ou à proximité de chez vous, un tel site de stockage ? Au départ, la réponse est oui. Après, quand on a expliqué les possibilités de fuite, tout ça, la réponse est beaucoup plus nuancée. Et on a encore, à mon avis, un gros travail à faire d'explication. Et non pas de propagande. Un gros travail d'explication, de discussion avec le grand public, parce que moi, en tant que scientifique indépendant, je pense sincèrement et fondamentalement que cette filière est sans risque.
C'est un peu comme l'énergie éolienne, où quand il s'agit d'avoir des éoliennes à côté de chez soi, c'est vrai qu'on peut être amené à se poser des questions, savoir si on accepterait une éolienne dans son jardin.
Votre comparaison est excellente, et même elle a été faite par... il y a eu un colloque l'année dernière, organisé par des spécialistes des sciences humaines du CNRS à Vincennes, et où on a entendu un collègue témoigner d'un problème d'acceptabilité d'éoliennes sur une zone, et les questions qui étaient posées, la façon d'y répondre, c'est exactement celles qui sont en train d'émerger autour de cette filière nouvelle.
Eh bien, je vous remercie Alain Bonneville de nous avoir donné toutes ces explications fort intéressantes sur la capture et le stockage du CO2 sous terre. J'espère que nos auditeurs en sauront plus. J'invite nos auditeurs à aller sur le site internet de l'Institut de physique du Globe de Paris, où vous êtes enseignant, où vous travaillez. Et puis, alors, je me suis appuyée quand même sur un ouvrage que je vais citer. Un ouvrage qui donne une vision quand même idyllique du stockage du CO2 sous terre. Donc, j'invite à le lire, mais que chacun se fasse sa propre opinion sur le sujet. Donc le titre « Capter et stocker le CO2 dans le sous-sol, une filière technologique pour lutter contre le changement climatique », publié par l'IFP, l'ADEME et le BRGM, et publié donc en 2007 et que l'on peut trouver sur le site internet du BRGM. Merci Alain Bonneville. J'imagine que vous repartez faire de nouvelles conférences sur ce sujet.
Très prochainement, je vais prendre des vacances d'abord.
Eh bien, bonnes vacances.
Merci beaucoup.
J'espère à une prochaine fois pour une autre émission. Au revoir.
Merci, au revoir.